Roulement de tambour, c'est l'heure de...
C'est l'heure des solutions vertes d'Emmanuel P2R.
Eh bien le bonjour Emmanuel P2R.
Bonjour Margot. Bonjour.
Comment ça va Emmanuel P2R? De quoi on cause en ce jeudi matin, ma chère Manu?
Je viens vous annoncer que nous aurons bientôt des avocats, mon péché mignon, dans les Landes. Et encore plus fou, Margot, c'est une forêt comestible entière qui voit le jour sur 7 hectares, soit environ 10 terrains de football. Un duo s'apprête à faire vivre un écosystème complet. Je vous y emmène?
Bah oui, incroyable, allons-y.
Bon, ça se passe à Estibault, entre Pomarès et Pouillon. C'est là que Johan Lang et son complice Franck portent un projet un peu fou et pourtant tellement sain et concret d'agroécologie. Il va nous en dire plus dans quelques minutes en direct. Pour vous dresser d'abord un peu le décor, le Landais part aujourd'hui de zéro. Son projet est pourtant tout dessiné, pensé en intégrant une vision pertinente de l'agriculture. C'est l'agriculture en fait de demain qui va prendre racine dès le mois de janvier, dans quelques jours. 60 000 arbres pousseront dans la forêt de Higas, une corne d'abondance alimentaire y prendra place. On y trouvera 1000 variétés végétales, 150 espèces animalières sur un site 100% autonome. Et le modèle écologique et économique est tellement réfléchi qu'un partenaire bancaire a donné son feu vert pour l'achat des terrains en jachère depuis 7 ans. Je vous présente Johan Lang, l'un des deux porteurs de ce projet. Bonjour Johan.
Bonjour Johan.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Mais très bien, merci, vous?
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, c'est sympa.
Merci à vous.
Est-ce que vous pouvez déjà nous faire juste une présentation rapide de votre parcours? Vous avez quel âge? Vous faisiez quoi jusqu'ici? Est-ce que vous êtes landais depuis toujours?
Alors non, je ne suis pas landais depuis toujours. J'ai 39 ans, je suis né et j'ai grandi en Champagne-Ardenne, dans les campagnes de Champagne, dans l'Aube. Et avec toujours l'envie depuis petit de venir m'installer dans les Landes, j'ai toujours adoré cette région. Et j'ai réussi à concrétiser ce rêve il y a 12 ans maintenant, en venant m'installer dans cette belle région.
Vous faisiez quoi du coup jusqu'ici avant ce projet de forêt comestible?
Alors j'ai eu un parcours professionnel assez éclectique, on va dire. À la base tourneur-fraiseur, j'ai ensuite bifurqué vers l'informatique pour me retrouver ensuite dans les murs végétaux. Et par contre, en ayant toujours tout le long, tout le temps, j'ai toujours fait pousser, même en appartement, mes petites tomates, mes framboises. Et en fait, c'est naturellement que je me suis dit qu'il fallait que je me tourne vers l'agriculture.
Bon, et donc ici, à Estibault, pourquoi là, sur cette terre qui n'a fait que faire pousser du maïs en quantité industrielle, si j'ai bien suivi jusqu'ici?
Alors, déjà, la première raison, c'est que ces terres, elles entourent ma maison. Donc, c'est la propriété vraiment.
Vous avez vu sur le terrain.
Autour. Voilà, une grande vue sur tout le terrain. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que c'est un bel exemple de conversion de terres qui ont pu être utilisées et de pouvoir les re-rendre fertiles naturellement.
D'accord. Donc vous allez devenir propriétaire sous peu et vous allez vous attacher à planter toute une forêt comestible. Où et quand est née cette idée de forêt comestible?
L'idée, elle germe depuis très longtemps. Comme je dis, j'ai toujours fait un peu de culture, etc. Donc ça fait plus de 10 ans que je fais des tests, on va dire, et des expériences qui s'appellent maintenant la permaculture. Mm-hmm. Et mettre des arbres au milieu des cultures avec des légumes racines en dessous, c'est, on va dire, un principe de base. Et donc, ça à grande échelle est pour moi une évidence si on veut répondre à la demande actuelle en produits locaux et naturels.
Et vous aviez vu ça quelque part? Ça existe ailleurs, ce principe de forêt comestible?
Oui, tout à fait. On n'a pas la prétention d'inventer quoi que ce soit. Il y a des tas de gens qui ont ça existe depuis les années 70-80. Et donc ça a commencé en Angleterre, au Canada, donc sur des climats bien plus durs que les nôtres. Mmh. Et donc c'est facilement adaptable à notre région et c'est pour ça qu'on espère aussi pouvoir y incorporer d'autres espèces un peu plus atypiques.
Ok. Cette forêt de Higas, demain du coup, à quoi ressemblera-t-elle exactement? Est-ce que vous pouvez nous projeter dans ce projet-là?
Eh bien, l'objectif, c'est vraiment avoir une forêt qui ressemble le plus possible à une forêt naturelle, c'est-à-dire des zones plus ou moins denses de végétation, avec aussi des buissons qui poussent sous les arbres, des lianes qui grimpent sur les arbres, des champignons, des légumes racines qui poussent donc dans le sol. Et tout ça mélangé de façon à éviter tout ce qui va être transmission des maladies. Et en plus, les plantes ont en général des avantages d'être les unes à côté des autres.
Mmh, elles se protègent, elles se nourrissent, elles s'entraident.
C'est ça.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle le compagnonnage.
Sur votre site internet, vous parlez d'une corne d'abondance alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ?
C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous citer, toutes les lianes, tous les arbres, tout sera à objectif comestible.
D'accord.
C'est-à-dire que les arbres, ce sera des fruitiers en allant jusqu'au noyer, ou par le pommier, ou la framboise. Il y aura aussi tous les légumes qu'on peut trouver chez un maraîcher traditionnel, et même bien plus encore, parce que nous, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir le plus de variétés possible. C'est un peu une arche de Noé alimentaire qu'on veut faire.
un véritable écosystème, parce que j'ai effectivement lu qu'il y aurait aussi des plantes médicinales, des baies de goji, des citrons yuzu, du poivre du Sichuan, même de la spiruline. Enfin, c'est tout à fait complet.
C'est ça. Comme je vous dis, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le plus de variétés, puis bah, pouvoir répondre à une demande de croissance atypique, qui demande actuellement beaucoup de transport, des importations importantes.
Mmh.
Et si on peut répondre à cette demande de façon locale, c'est une bonne façon de réduire notre impact.
Et donc vous allez construire, pour ce faire-là, une serre photovoltaïque aussi, justement, pour ces variétés un peu atypiques ?
C'est ça. Alors on est en train de faire un partenariat avec une entreprise dans le photovoltaïque pour pouvoir produire, comme je disais, de façon locale, des avocats, du café. On va essayer également cacao, banane. Mais là, il faudra peut-être plus de temps et plus de tests avant d'être sûr de réussir. Mais pour les variétés, oui, café, cacao, agrumes, ça, c'est des variétés qui poussent sans souci sous abri par chez nous.
Bon, déjà, si vous cultivez des avocats, c'est mon péché mignon qui m'était si douloureux de ne pas consommer. Donc, je suis ravie. Je vais prendre des parts dans votre projet. Et justement, en fait, je dis ça en plaisantant, mais on peut, en fait. Il y a un système de parrainage du projet, du parrainage d'arbres. Dites-nous en quoi ça consiste.
C'est ça. Alors, en fait, on propose plusieurs solutions. Parce que nous, comme vous disiez, c'est 60 000 arbres, arbustes et buissons qu'on veut planter. Donc, l'investissement est conséquent.
Mmh.
C'est donc la banque nous suit sur le terrain et sur le matériel, mais pour tous les arbres, il faut se débrouiller. Et donc, ce financement nous permet de planter plus d'arbres plus vite. Et donc, pour ça, on propose ou des paniers de légumes pour cet été en promotion, ou alors, comme vous disiez, de parrainer un arbre, c'est-à-dire d'avoir votre arbre à votre nom, votre arbre fruitier, et d'en récupérer moitié des récoltes toute votre vie.
L'arbre Margot, t'en penses quoi Margot ?
Oh, c'est canon, j'adore, je valide.
Monsieur Langan, espérez-vous vivre de cette forêt ferme 3.0, du coup, qui répondra aux besoins locaux en alimentation des habitants ? Ça peut être viable à partir de quand ? Et est-ce qu'il va être amené à créer de l'emploi, ce projet ?
Alors, le projet, il est forcément viable dès le départ, parce que sinon, une banque ne donne pas son accord. Donc,
ouais.
On a un prévisionnel d'établi sur 4 ans, et dès le départ, au mois de janvier... le projet est viable, mais le début des productions, vraiment, va commencer au début avec du mesclun, des radis, pour avoir des productions rapides, donc on va dire sous 40 jours, donc à partir de mi-février, et on aura une offre plus complète vraiment cet été.
D'accord. Et donc du coup, on se dit qu'une fois la forêt complètement plantée et le site autonome, demain, il pourrait y avoir davantage d'emplois chez vous ?
Alors déjà, dès le départ, je crée un emploi à mi-temps.
Mmh. Ah oui, celui de Franck dont on parlait, qui vous aide à porter le projet.
Tout à fait. Et on espère, oui, avec le développement de l'exploitation, on aimerait bien tenir un petit calendrier, prendre une personne tous les 2 ans à peu près, jusqu'à un nombre de... Pour l'instant, on estime à 6-7 le nombre qu'on aurait besoin d'être une fois que tout serait installé.
Mmh. Jusqu'à la fabrication de produits transformés, puisque ça vous envisagez de le faire pour ne pas perdre des résidus de produits cultivés, c'est ça ?
C'est ça, c'est le premier emploi qui serait créé d'ailleurs, puisque c'est, comme vous le dites, l'objectif c'est vraiment zéro gaspillage, zéro perte. Donc transformer tous les invendus directement sur place, de façon à les conserver et pouvoir les proposer l'hiver.
Alors il s'agira...
À la clientèle locale.
Pardon, excusez-moi. Il s'agira de, selon vous, vous l'écrivez comme ça, de la plus grande forêt comestible d'Europe, qui va donc se trouver au cœur des Landes, qui est elle-même la plus grande forêt artificielle d'Europe, et qui, on le sait, subit régulièrement de lourds aléas climatiques. Est-ce que ces risques ne vous réfrènent pas un peu dans votre projet? Est-ce que vous avez quand même l'agnac au ventre et vous avez envie d'y aller malgré ces craintes-là?
Oui, tout à fait, puisque c'est ce qu'on plante, c'est une forêt mixte, c'est pas une forêt de pins. Bon, le pin, c'est quand même assez fragile, on le sait bien, bon, surtout au niveau du vent, ça casse facilement. Mm-hmm. Et nos façons de planter, on plante des arbres vraiment très jeunes, et, qui vont vraiment avoir une prise au sol qui est différente de quand on plante des arbres qui ont déjà plusieurs années, en plus d'être mieux adaptés au sol, du coup. Mm-hmm. Et on sait très bien les risques qui sont entre guillemets calculés. On sait quand même qu'il y a des risques comme la grêle aussi qui peut nous inquiéter, mais faut aussi se dire qu'à terme, justement, ces arbres servent aussi à protéger les cultures qu'il y a en dessous.
D'accord, oui. Bon.
C'est toujours la couche du dessus qui va prendre pour protéger les couches d'en dessous. Donc ça évite aussi d'avoir beaucoup de pertes par rapport à une culture traditionnelle qui va être étalée vraiment à plat en deux dimensions, on va dire.
Okay. Ça me fait penser un peu au film documentaire Tout est possible. Est-ce que vous l'avez vu, Johan Lang?
Oui, tout à fait. Je l'ai vu il y a quelques temps, mais oui, je l'ai regardé.
Alors, j'explique un peu à nos auditeurs. Ça s'appelle en anglais The Biggest Little Farm. C'est un film documentaire de John Chester. Ça raconte l'histoire de John, justement, et de son épouse Molly, qui ont décidé de quitter Los Angeles pour se lancer dans le développement d'une ferme éco-responsable. Alors, ils ont pu s'acheter qu'un terrain aride, hyper hostile même. Et en fait, on suit le développement de ce lieu pendant 7 ans. C'est complètement dingue. Enfin, vraiment, moi, je vous invite à regarder ce film. C'est une leçon de résilience et d'écoute des sols, de la nature. C'est génial. On peut le revoir en plus en ce moment sur le géant, là. Vous savez, Netflix. Je voulais pas dire.
Vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit.
Et voilà, et c'est enthousiasmant. Et je voulais vous donner la parole dans cette chronique parce que je pense qu'on va pouvoir vivre ça aussi dans les Landes, chez nous, grâce à votre projet. Alors déjà, vous faites vivre pas mal de choses sur la page Facebook de la forêt de Higas. Je vous invite à tous à regarder. On vous voit commencer à travailler le sol, à réfléchir à demain et puis progresser aussi dans votre projet de financement participatif. Donc, merci beaucoup, Johan Lang, d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer, donner un petit peu l'eau à la bouche à tous les Landais qui nous écoutent. Et puis, à très bientôt. Oui. Si vous êtes d'accord, on reprendra des petites nouvelles dans quelques temps.
Merci à vous et avec grand plaisir.
Et donc, le lien pour aider, soutenir le projet de Johan Lang est sur leur page Facebook. Ils ont déjà atteint 75% de l'objectif. Bravo, franchement, c'est super.
On cherche à atteindre les 75. Nous sommes qu'à 60.
Ah, j'ai vu 75. 60. Allez, les Glandais, on y va. On finance, on y va. On suit votre projet. En tout cas, on est derrière vous. Bravo pour l'initiative et à très bientôt, monsieur Lang.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Johan.
Au revoir.
Bonne journée.
Merci, ma chère Manu. Quelle expérience, quelle aisance dans l'art de l'interview. Vous avez déjà fait ça?
Elle se moque de moi.
Ah, pas du tout. Je trouve ça remarquable. Un quart d'heure, c'est bouclé, c'est magnifique, on a tout.
On n'a pas vu, mais c'est hyper intéressant, les chiffres, toutes les variétés qu'ils veulent développer et tout. Enfin, vraiment, il y a des choses, il faut farfouiller. Enfin, ils ont une page en construction, mais leur site Facebook est hyper riche. Et puis, il y a déjà eu plein de médias qui se sont penchés sur la question. Sud-Ouest va faire de même. Je ne fais pas de la pub aux confrères, mais quand même. Donc, non, je pense que c'est un beau projet à suivre et je suis contente d'avoir pu en parler ce matin. Merci de m'en avoir donné l'occasion, Marco.
Avec grand joie. Puis vous aurez évidemment, chers auditeurs, tous les liens vers le projet de la forêt de Higas et tout ce qu'il faut pour aller mettre des petits sous-sous.
Super.
Sur l'article du podcast qui sera en ligne très vite. Et vous ne m'aviez pas donné de morceaux? Manu.
Ah, qu'est-ce qu'on peut écouter? On met du Jean-Jacques Goldman ou pas?
Et non. Et non. Mais j'ai l'ISO sous la main.
Ah oui, très bien.
Boys, ça
Parfait,
vous va?
On y va.
Allez, let's go.
Merci.
Bisous, Manu. Merci.
À bientôt.